Alors je voudrais, dans un après-coup à la réunion d'hier, le 20 juillet chez Elisabeth et Jean-Pierre, faire part un peu de ce qui est venu. Alors après-coup, ça veut dire que, bien sûr, ça dépasse, sinon ce ne serait pas un après-coup, ce qui a été déjà énoncé, au moment de la réunion. Donc c'est l'après-coup que je peux personnellement donner, j'ose pas dire subjectivement, parce que c'est des mots qui sont quand même chargés de façon importante. Mais bon, ça vise quand même à prendre en compte la façon dont j'ai pu être mis au travail par cette réunion intéressante. Ce qui peut d'emblée être souligné, c'est le fait que... Alors bien sûr, ce que je vais dire, c'est pas un résumé. Donc il y a des choses qui vont sans doute pas venir dans ce que je vais dire. D'autre part, je le présente sous forme audio parce que je pense que c'est justement un peu ça dont il s'agit. Pour autant que dès que quelqu'un parle, et l'occurrence dès que je parle en fait... j'élabore quelque chose de l'ordre d'une image, c'est-à-dire d'une représentation, et que, comme je parle sans notes, c'est différent du fait de lire une image. Ce que dit Godard en disant que, en fait, il n'y a pas d'image, et que la grande question c'est qu'est-ce qu'une image, ça correspond au fait que, habituellement, nous n'arrêtons pas de commenter des images. Or, ce n'est pas parce qu'on commande des images qu'on dit quoi que ce soit sur ce qu'est une image. On parle peut-être de l'image et non pas d'une image. Alors, il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui sont venus, qui correspondent à la façon dont j'ai été mis au travail, notamment dans mon séminaire de cette année, et dans « Qu'est-ce que le savoir ?» et aussi dans les séminaires précédents, je dirais, dans un mouvement progressif. Alors, je pense que maintenant, donc, dans cet après-coup, c'est après l'après-coup, c'est le moment où il y a eu une disparition de la pensée qui, jusque-là, était prise par ce qui était évoqué, en quelque sorte, ce qui était évoqué par chacun au fur et à mesure des échanges. Donc dans cet après-coup, ce qui apparaît effectivement, c'est l'importance d'opposer, mais dans une opposition dialectique, dans un conflit dialectique et non pas dans un conflit binaire, justement, imaginaire, simplement une expression qu'on connaît plus ou moins, qui d'ailleurs est prise, je crois, par Godard à un moment ou à un autre, mais on pourrait la formuler comme ça, ce n'est pas un savoir juste, c'est juste un savoir. Alors, ce n'est pas un savoir juste, pour autant que là, nous sommes dans... une définition, je dirais, habituelle de commentaire de ce que peut être une image, de ce que l'on peut voir sur une image, qui renvoie aux connaissances, à tout ce qu'on peut y découvrir, y trouver. Et alors, il y a un retournement, mais juste une image. Alors, j'insiste sur le retournement, sur justement cette dimension du temps, cette dimension d'un après-coup, parce que c'est quelque chose qui tout d'un coup vient traverser le récepteur que nous sommes. Un savoir juste, c'est ce qu'on appelle en philosophie le jugement d'attribution, c'est le dualisme habituel, c'est le bon, pas bon, c'est le juste, injuste, c'est le tout ce qu'il en est, de tout ce qui relève de l'attribution d'une qualité. Et donc juste là est un adjectif. À partir du moment où il y a juste un savoir, juste n'est plus un adjectif, c'est un adverbe. Et habituellement, nous entendons, parce que nous sommes toujours en train de commenter, évidemment, dans cette image, défini, limité, nous entendons surtout à nouveau le mot savoir. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, ce quelque chose d'insaisissable, que nous appelons cette dimension, qui met en direction du réel, puisque si c'est insaisissable, on ne peut pas dire ce que c'est, mais c'est quelque chose où nous avons appris avec Lacan que la vérité se dit, ce n'est pas la vérité que l'on peut dire, c'est la vérité qui se dit elle-même. Hein. Moi, la vérité, je parle dans cette prosopopée que l'on peut trouver très tôt dans les écrits de Lacan. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui parle, évidemment, c'est la vérité qui parle. Donc, juste un savoir, c'est un adverbe. Habituellement, on va être à nouveau repris par le mot, bah oui, c'est juste un savoir, après tout, hein, c'est pas grand-chose, oui. Mais il y a, en fait, ce qui apparaît d'emblée, c'est qu'il y a une temporalité. Et alors, cette apparition à nouveau du mot savoir et du mot un rebondit, redouble du fait que justement est posée la question du un. Alors, on pourrait dire que dans cette formulation qui m'est parvenue, j'insiste bien hier, mais qui me semble être, qui m'est venue ce matin, par rapport à ce que je disais hier, est en jeu la façon dont l'imaginaire, l'image, peut être habitée par un mouvement, dont on a parlé, par un mouvement, ce qui nécessite, bien sûr, qu'en elle-même, elle accepte de recevoir le fait qu'à un moment, une faille apparaît. Mais ce n'est pas une faille destructrice, hein, bien sûr, hein, ce n'est pas pour s'en débarrasser, c'est simplement que l'imaginarisation, je dirais, du symbolique, alors plus précisément, on pourrait dire que, là je reprends la façon dont Lacan dit les choses tout à la fin de son enseignement, quand je dis ce n'est pas ou c'est pareil, c'est une délégation, c'est juste un savoir ou ce n'est pas, je viens de faire un lapsus, quand je dis ce n'est pas un savoir juste ou c'est un savoir juste, nous savons qu'on, même si c'est une délégation, ça pose les mêmes questions, puisqu'une délégation c'est poser quelque chose et puis la nier en même temps, donc il s'agit toujours du même type de jugement. Je suis dans le fait que, si on prend les trois termes, réel, symbolique, imaginaire, je réalise l'imaginaire du symbolique, RSI, je réalise l'imaginaire du symbolique, ça veut dire RIS, je ris, RIS, de quelque chose. Et au moment où a lieu ce juste un savoir, à ce moment-là, apparaît effectivement le fait que, à cette réalisation de l'imaginaire du symbolique, est substitué la symbolisation du réel de l'imaginaire. Alors, c'est quelque chose d'autre. Évidemment, il y a derrière tout ça, parce qu'il faut arriver à nouer les trois éléments, il y a quelque chose qui serait le réel du symbolique de l'imaginaire. Tout ça, c'est pour montrer que nous avons besoin de ce 3 et que dans cette dimension du 3, c'est-à-dire du savoir habituel, qui est cette imaginarisation, cette réalisation de l'imaginaire du symbolique, on a parlé de ça hier, et il me semble qu'on ne peut pas dissocier jamais, il y a toujours dans tout type de savoir, un savoir à prédominance imaginaire, à prédominance symbolique, à prédominance réelle. Bien sûr, on simplifie en disant que c'est du savoir dans le réel, du savoir dans l'imaginaire, du savoir symbolique, mais il y a toujours les trois éléments. Et toute la question est de savoir comment il est possible qu'à un moment ou à un autre, il y ait passage, passerelle, et donc subposition, que de cette subposition, il y ait franchissement de la barre qui est opéré là, au niveau même du 1, ce qui fait dire à Lacan d'ailleurs que toute femme, justement, peut franchir la barre du signifié et du signifiant, c'est-à-dire qu'elle est, mais elle est toute femme, elle, dans cette position. Mais ça ne dit pas ce qu'est toute femme. Alors, pour la deuxième partie de ce que je voulais dire, hein, je n'oublie pas tout ce qui a été dit, par exemple, sur la façon dont Schoenberg, lui-même, c'est Isabelle qui parlait de ça, pour elle, c'était tout à fait important de différencier ce qu'elle pouvait lire sur une partition de musique à 1200. Dans la mesure où elle comprenait très bien, elle pouvait lire comme on peut lire quelque chose, peut-être comme on peut commenter une image d'ailleurs justement, mais que dès que ça sonne, eh bien, c'est autre chose qui est entendue. Je trouve que là il y a quelque chose de tout à fait riche, de tout à fait important, ça c'est une chose. Et puis tout ce qu'on a pu dire au niveau du tableau, au niveau de l'œuvre, de l'œuvre d'art. Voilà. La deuxième partie, et puis aussi ce que j'ai apporté à partir de ce peintre de la croix qui, à mon avis, a pu dire ça parce qu'il était aussi un grand musicien. Bon, alors là, ça nous amène à la deuxième partie, qui est celle de l'importance du son et de l'articulation du sens et du son, pour autant que, par exemple, la voix, c'est ce composé mixte de son et de sens, bien sûr, et que c'est pour ça que c'est important, et que dès que je parle, que je le sache ou non, ça nous ramène à la réunion de mardi, que je le sache ou non, il y a une musique. Alors, je dirais même les choses plus radicalement, je ne sais pas, en parlant, que je chante, je ne sais pas parce que je ne l'entends pas véritablement et pourtant j'entends, c'est-à-dire que je produis des harmoniques dans ma voix, qu'il y a une fluidité, qu'il y a un mouvement qui s'entend à certains moments sur certains sons, et que ce mouvement est laissé à l'entendement du récepteur. Évidemment, le récepteur va entendre d'ailleurs autre chose que l'émetteur que je suis. Et c'est ça l'important. Il va entendre autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il va entendre quelque chose de différent. Il va entendre justement ce juste, à savoir, cette dimension de l'un. Pour aborder cette dimension de l'un, et aussi la musique est importante, là, parce que ça ne se différencie pas beaucoup du sens. On peut penser que la musique est du langage, moins le sens. Bien sûr que le récepteur, lui, il va mettre du sens, évidemment, en fonction de tout ce qu'il habite, lui, au niveau des significations. Mais ce qui est important, sans doute, c'est le fait que lorsque j'entends la musique, bien sûr, je mets du sens et que chacun peut y mettre un sens qui lui est propre. À ceci près que peut-être il est important que la pièce musicale que j'entends ne soit peut-être pas déjà dénommée, on a parlé de ça hier, dénommée. Parce que si elle est dénommée, si je sais par exemple que c'est la mère de Debussy, peut-être que je vais entendre quelque chose qui va venir recouvrir ce que j'entendrais si je ne savais pas que ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est toute la question du son et du sens qui est au cours de l'image. Donc quand j'entends, je suis dans la composition, dans la position, dans l'articulation des différents éléments, et ça nous conduit à la psychanalyse de ce côté-là. Pour autant que la psychanalyse, bien sûr, il y a toute cette dimension de retrouver ce qui a été refoulé, de comprendre, de penser ce qu'on n'a pas pensé, de retrouver ce qui a été vu, ce qui a été entendu et qu'on ne sait plus. Mais il y a surtout, alors là, c'est l'enseignement de Lacan, prolongeant Freud, c'est l'enseignement de Lacan dans ses échanges avec Lévi-Strauss, c'est l'enseignement de Lacan avec Lévi-Strauss se référant à de Saussure, c'est-à-dire à la structure, c'est-à-dire aux différentes parties, aux différents éléments du discours. Et il peut arriver, c'est ça le juste en question, un, savoir, gardons surtout juste et un, que une partie, quelque chose de particulier, quelque chose d'étrange apparaisse, mais c'est pas si étranger puisque ça apparaît dans le discours, c'est toute la question du mot d'esprit. Pour autant que c'est le récepteur qui authentifie le producteur comme étant un créateur du mot, il y a toute cette dynamique-là, et c'est ceci est lié parce qu'une part particulière que Lacan a nommée l'objet petit a, l'objet manque, à ce moment-là est agent du discours. Eh bien, C'est un peu ce que j'évoquais hier à propos de Delacroix, qui tout d'un coup, lorsqu'il dessine, ne sait pas évidemment ce qu'il dessine, ne sait même pas, il sait qu'il dessine, mais ce qu'il dessine, il ne sait pas, il pense qu'il dessine, il pense, c'est important qu'il dessine un fragment de rocher, et dans un temps insaisissable, variable évidemment dans son apparition, mais qui pour lui va apparaître, soudainement il découvre qu'en fait c'est la totalité de la falaise qu'il a dessinée en dessinant seulement une petite partie. Autrement dit, ces dimensions de la part du partiel où nous reconnaissons la dimension de Jacques, de Lacan et de Freud déjà, objet constitué comme perdu, est tout à fait importante parce qu'elle est là présente comme quelque chose qui échappe, mais qui permet que quelque chose de nouveau advienne. On en est donc dans cette situation-là particulière. On a évoqué la théorie scientifique qui va authentifier ça, mais il n'y avait pas besoin de la théorie. C'est la théorie des fractales de 1970. Et on peut dire que l'artiste est celui qui, alors, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est celui qui, au niveau même de son rapport à la nature, qui est un rapport de surnature, d'existence, c'est pas une imitation, c'est pas la nature qui fait naître comme ça les choses simplement, c'est pour autant que, par exemple, Rainer Maria Rilke, Rainer comme l'appelait Lou Andrea Salomé, un jour, étant au contact d'un arbre, va sentir quelque chose qui vient l'habiter. Ce mouvement lui vient de cette part particulière qui est en mouvement pour lui, au niveau de cette physis, de cette nature particulière, qu'il rencontre par le biais de cet intermédiaire qui est pour lui un arbre. C'est la même chose pour Hugo von Hofmannsthal, quand dans un état de dépression intense, il dit que les livres qu'il peut lire, ce qu'il peut voir, pareil, ça nous donne une grande idée de ce qu'est une image, un savoir et non pas l'image, tout ce qu'il peut lire ne lui sert plus à rien, puisque seul compte pour lui les choses de Rodin, les choses, c'est-à-dire ce qu'il a pétri, ce qui est animé, les choses qu'il a pétri, lui, avec ses mains, avec les mains du créateur, on pourrait dire, c'est ça à ce moment-là, qui anime Hofmannsthal. Et il écrit d'ailleurs un article où il parle des mots qui ne sont pas de ce monde. Ces mots qui ne sont pas de ce monde. Et là, on est sans doute très proche d'être en compte entre le son et le sens. Vers quoi vise la musique? Alors, voilà un peu les éléments sur lesquels je vais m'arrêter. L'important, c'est donc cette dimension du fait de dépasser, du fait que s'il y a beaucoup d'images, effectivement, qu'est-ce qu'une image? Mais qu'est-ce qu'une image, ce un? Et on pourrait dire que d'ailleurs, toute la question du christianisme est articulée autour de ce un, et que ceci a beaucoup, sans doute, là qu'on n'en parle pas directement, mais sans doute a beaucoup, alors vous savez, la Trinité, le 3 qui fait un, Lacan n'en parle pas directement, on pourra en parler la prochaine fois si vous voulez, parce que ça pose la question de quelque chose qui est silencieux, qui s'entend silencieusement, cette jouissance, J-O-U-I-E-sens, qui est dans la présence, dans ce qu'on appelle dans le christianisme la personne, le mystère de la personne. Bien sûr, là, c'est pas le christianisme que l'Église a mis en place à partir des conciles du 2e, 3e et finalement 4e siècle après Jésus-Christ. Là, tout est bloqué, tout est figé, mais de ce que l'on peut dire, alors là, c'est très énigmatique pour moi, c'est quelque chose d'important, de ce quelque chose qui met sans doute. Alors, c'est pas comme ça parce que l'institution l'a plus voulu comme telle, mais qui met le rapprochement, qui met peut-être un certain passage entre, oui, je termine un peu là-dessus, bien sûr, c'était quasiment inévitable, parce que parler de l'image, c'était parler aussi de ce deuxième commandement, tu ne feras pas d'image, de la pensée biblique, du judaïsme. Mais il y a sans doute, par ce biais-là, quelque chose qui unit le christianisme et le christianisme, c'est difficile de trouver le christianisme au sens où on peut trouver dans les évangiles, même s'ils ont été écrits après l'enseignement de Saint Paul qu'il a lui-même écrit, on peut trouver parfois, à certains moments, quelque chose qui prenne en compte cette jouissance de la présence. Et ce serait une façon de répondre à la question de Baudard. Qu'est-ce qu'une image qui nous parle? Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je voudrais partir du fait que c'est dans la mesure où la pensée s'arrête que quelque chose peut advenir de nouveau. C'est en effet la subversion qui introduit le fait que dès que l'être parlant est arrêté dans le déroulement de sa pensée qui se fait par un mécanisme psychique inconscient de déplacement, c'est-à-dire qu'il ne cesse de tourner en rond, ce qui peut étonner, bien sûr, mais en fait, c'est ainsi que nous sommes faits. Il tourne en rond, c'est-à-dire que il est dans ce disque, il est dans ce discours courant, comme le dit Lacan, qui fait que, après tout, même si les éléments sont différents, même si ce qui est raconté est différent, il s'agit en fait toujours d'être à distance, c'est ça le déplacement, d'être à distance de ce qui peut apparaître. Alors pour que quelque chose apparaisse de nouveau, vous voyez que nous sommes dans la dimension du discours dont nous avons parlé hier soir, pour que quelque chose de nouveau apparaisse, il importe que quelque chose, qu'un événement advienne, et cet événement, c'est la disparition de la pensée. C'est d'ailleurs, effectivement, ce que réalise le moment où la pensée s'en va, c'est-à-dire l'endormissement, et le moment où la pensée n'est plus là, c'est-à-dire le fait du sommeil. On pourrait dire que le réveil est le moment où la pensée revient. Je parle bien sûr de la pensée consciente ou préconsciente. Alors, hier, bien sûr, nous avons eu une réunion tout à fait intéressante qui visait à établir, à faire des vagues en quelque sorte autour du fait que si nous avons l'impression, j'ajouterai leur honte, le mot est venu, que nous sommes dans un monde d'images, c'est le rang au sens où ça n'est pas faux, ça n'est pas vrai pour autant, c'est-à-dire que, en fait, ces images qui ne cessent d'être commentées ne disent pas ce qu'est une image. Et d'ailleurs, ces images, elles sont finalement assez obéissantes, elles acceptent d'être mises dans un ordre qui est celui du plaisir de celui qui les organise. Ça peut paraître surprenant ce que je vais dire, mais c'est un peu la même chose dès que nous nous mettons à parler, puisque il n'y a pas à reprocher, nous sommes faits comme ça, nous établissons des commentaires. C'est-à-dire que ce qui apparaît à ce moment-là, c'est le fait, bien sûr, que chacun suit le déplacement de l'autre pour le prolonger, pour le développer, pour que ce dit de l'autre, il s'en contente ou il ne l'accepte pas, il aille contre, même parfois tout contre, allant avec toute l'ambiguïté de ce terme dans un contredit, dans un contredire, et toute la question est celle de savoir ce qui fait que autre chose peut apparaître. C'est ainsi que nous avons pu effectivement parler à propos de l'image, de toutes sortes d'éléments qui sont du tableau. La question de la forme, la question de ce qui est en jeu par le biais de l'eidos. On pourrait rajouter aussi en grec de la morphée, et puis aussi d'un autre terme, le schéma. La schéma est prolongé un peu le commentaire de Benveniste sur le mot grec rhythmos. Rhythmos, bien sûr, c'est pas l'aller-retour, le rythme au sens où un jour les Athéniens auraient vu comme ça la mer aller et venir et que le rythme serait venu de là, de cette obsis, comme je le disais, de cette observation. Nous sommes tous pris dans l'obsis. Mais il y a aussi autre chose. Le rhythmos, en grec, en fait, mais alors chez les Grecs d'avant le 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ, chez les présocratiques, le rhythmos, c'est la façon dont, dans un tout, les différentes parties sont arrangées. C'est ainsi que le tout qu'est l'image a un au-delà de ce qui est vu, même ou de ce qui n'est pas vu, de ce qui est visible et de ce qui n'est pas visible. Il y a la dimension de cet au-delà, de cet au-delà de ce que Freud appelle le principe de plaisir ou de déplaisir, visible, non visible. Cet au-delà, c'est la dimension de l'invisible qui tout d'un coup peut surgir. La dimension de l'inouï qui tout d'un coup peut surgir. La dimension de l'immatériel que transmet le danseur, pour autant qu'à un moment, il transmet que le corps n'est plus soumis à la loi de la pesanteur, qui tout d'un coup peut être transmis pour le récepteur, inouï, invisible, immatériel, c'est la façon dont le récepteur reçoit. Autrement dit, c'est le récepteur qui authentifie l'artiste à venir comme artiste, le producteur comme créateur. Et pour que ça advienne, il importe qu'il y ait cette dimension d'après-coup, c'est-à-dire que, j'en reviens à notre travail, il n'importe que ce qui conduit au déplacement de la pensée, ce qui fait que nous pensons habituellement, et que nous pensons avec ce que nous savons, avec les éléments de notre connaissance, soudainement s'efface. Bien sûr, ça ne va pas disparaître, et il n'y a même pas question de le faire disparaître. Et alors, après un temps de sidération, parce que c'est ça la pensée qui s'en va, c'est la sidération de la pensée, après un temps de latence qui suit cette sidération, ce temps de latence, nous savons que c'est le temps d'élaboration psychique inconsciente, une réponse advienne qui est la création du monde esprit. Je ne vais pas développer davantage, mais nous avons dans la structure du monde esprit, et Lacan n'a cessé de se référer au monde esprit, ce qui est en jeu dans ce que nous appelons la dialectique de l'inconscient. Et du coup, on ne peut plus parler de l'inconscient simplement. C'est l'apparition. À un moment, tout ce que je viens de dire nécessite l'apparition d'un nouveau temps, de quelque chose de nouveau. Voilà donc tous les commentaires que nous pouvons faire sur l'image, sur le fait qu'elle soit plus ou moins satisfaisante, plus ou moins vraie, plus ou moins juste, plus ou moins belle. Pour les uns, elle fait penser à ceci. Pour les autres, elle fait penser à autre chose. Tout ceci est tout à fait intéressant, mais il peut arriver effectivement, à l'instar de Kandinsky, qui un jour rentre dans son tableau et voit une aquarelle comme il ne l'a jamais vue, il peut arriver qu'à un moment, bien sûr, quelque chose nous regarde. Dans le cas de Kandinsky, on pourrait dire qu'un regard, soudainement, ne le quitte plus. C'est pour ça que de regarder, il advient comme regardant, et il pourra voir autre chose. C'est la même chose au niveau du son. Et on voit qu'alors, la dimension du son et de l'image peuvent se donner la main pour un ailleurs. Son image. Dieu créa l'homme à son image. Toute la question, effectivement, est la façon dont quelque chose peut soudainement sonner autrement. Ça ne veut pas dire du tout que Dieu puisse penser ça. D'ailleurs, qu'est-ce que Dieu ? Là n'est pas la question, puisque de toute façon, c'est un nom de l'insaisissable, ce que nous appelons avec Lacan du réel. La question n'est donc pas d'être pour ou contre, après tout, puisque c'est quelque chose que nous ne pouvons pas saisir. Mais qui dit la vérité sans parler ? Alors, et ce sera le deuxième point de ce que je voudrais aborder, cette mention du dire, cette mention de l'invisible, de l'inouï et de l'immatériel au cœur même de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, nous interroge pour autant que ce qui est en jeu, c'est le fait que si la pensée disparaît, alors un appel, une insistance de cet insaisissable peut venir mettre en mouvement en nous quelque chose pour que, à ce moment précis, et soudainement, nous entendions, nous voyons. Est-ce que nous voyons avec nos yeux? Est-ce que nous entendons avec nos oreilles? Ce n'est pas sûr du tout. Nous soyons mis en mouvement par une présence qui soudainement devient présente. Nous dirons en nous, parce que nous ne savons pas comment dire, mais nous sommes face à une présence qui soudainement apparaît du fait qu'une présence appelle, interpelle. Et elle appelle parce que, d'une certaine façon, comme en musique, elle a entendu en nous une présence jusque-là qui n'était pas reconnue. Elle ne pouvait pas être reconnue tout simplement parce qu'elle ne peut pas être connue. Mais elle advient comme reconnue et non pas comme connue. Alors j'évoquais par rapport à ça, bien sûr, cette question de Godard. Qu'est-ce qu'une image ? Et qu'est-ce qu'une image qui parle, qui vous parle, qui nous parle? C'est ça la question. Au-delà des images que nous commentons, et nous ne cessons d'être pris dans cette problématique, à ceci près que la deuxième partie, celle de qu'est-ce qu'une image, n'est habituellement pas posée. Alors une autre façon de rendre compte de ça, de cette dialectique, de ce passage, du commentaire des images, mais aussi du commentaire des souvenirs, c'est la même chose, hein, dès que nous parlons, nous commentons, à l'apparition du fait que, au-delà de ce qui est dit, il y a autre chose, ça pourrait se résumer dans quelques mots. Et c'est ce qui m'est venu ce matin, donc après cette nuit où la pensée a disparu. Je crois dire que c'est peut-être bien aussi une citation de Godard. ceci n'est pas une image juste, c'est juste une image. Ça paraît simple, mais c'est pas simple du tout. C'est pas simple parce que c'est très riche. Le passage de juste comme adjectif. Ceci n'est pas une image juste, mais juste une image à juste comme adverbe change tout. Nous accédons à un autre monde, celui justement d'une autre temporalité. Et toute la question, vous voyez, chez chacun d'entre nous, c'est comment les deux mondes peuvent, à un moment donné, être présents, mais d'une présence ailleurs, c'est-à-dire d'une présence qui ne peut pas les saisir. Tout se passe comme s'il se donnait la main dans un autre monde, et que cet autre monde, il n'est pas loin. Il est là, mais nous ne le voyons pas. Il est là, mais nous ne l'entendons pas. Il est présent, et nous nous en rendons compte lorsque, par exemple, nous sommes dépressifs. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la pesanteur du corps n'est plus contrebalancée par la loi symbolique qui l'annule et qui fait que quand nous marchons, bien sûr, nous ne nous rendons pas compte des 50, 60, 70, 80, 90 kilos que nous déplaçons. C'est la dimension de l'immatériel. Juste à savoir. Je crois que c'est ça un peu qui m'a poussé, même si je ne pensais pas à ça, bien sûr, à vous proposer ce moment où de la croix, le moment dont il fait part. Ben, je crois que c'est en 1854 dans ses carnets où il dit qu'un jour, quelques années auparavant, alors qu'il dessinait un fragment d'une falaise, tout à coup, voilà le nouveau temps, il a vu avec quoi ? Ça c'est la question. Est-ce qu'il n'a pas aussi entendu pour voir ? C'est une vraie question. L'image qui parle. Il a vu tout à coup que ce dessin était en fait celui de l'ensemble de la falaise. Était-ce vrai, était-ce faux, là n'est pas la question. Il l'a vu. Il l'a vu. Et l'ayant vu, l'artiste qu'il est advenu à ce moment-là. C'était, Delacroix aimait beaucoup entendre la musique. Et je ne peux pas ne pas penser que il a aussi entendu quelque chose. Il a entendu un appel, quelque chose qu'on peut entendre parfois dans la musique, au moment d'un continuum, celui par exemple du cri. D'ailleurs, la musique c'est un continuum, même s'il y a des moments que nous appelons silence. En fait, c'est parce que le sonore n'est plus présent, mais le silence en tant que tel, il s'entend, comme le disait John Cage. La musique, c'est fait pour faire entendre le silence. Et qu'est-ce qui s'entend dans le silence ? Voilà, c'est ça la question. Qu'est-ce qui s'entend dans la voix, aussi bien quand elle fait entendre des harmoniques particuliers, la voix lyrique, que dans ce moment particulier d'un continuum qui est le cri, où se fait entendre le silence. Lacan a une formule magnifique, le cri fait le trou où le silence se rue. Alors, je vais m'arrêter sur ceci. Qu'est-ce qui fait donc qu'à un moment ou à un autre, chacun d'entre nous peut être récepteur. Peut être récepteur de cette insistance et dès lors, une image lui parle. Lui parle silencieusement, avec ces mots qui ne sont pas de ce monde dont parle Hugo von Hofmannsthal, avec le fait que, comme il le dit, lorsqu'il est dépressif et que, à ce moment-là, les livres ne lui apportent rien. Tout ce qu'il peut trouver dans les livres, tout ce qu'il peut parler, trouver dans la conversation avec les autres, les mots, ça ne l'arrache pas. Par contre, dit-il, seules les choses de Rodin, les choses muettes, les choses, c'est-à-dire ce que Rodin a façonné de ses mains de créateur pour lui. Il faut ce qu'on appelle du transfert. Ceci n'est pas une image juste, ce qui est la même chose que de dire ceci est une image juste, puisque entre les deux il y a une dénégation. Nous savons que la dénégation, c'est de toute façon repose sur le fait de poser l'être pour ensuite dire que ça n'est pas. Mais de toute façon, ça pose la question de l'être, que l'être ou l'être est porté par les mots. Ceci n'est pas une image juste, mais juste une image. Alors, je vais rester sur la question du juste une image, la question du un, pour signaler que c'est ce un qui s'articule au tout, hein, puisque ceci n'est pas une image juste, s'inscrit dans un. J'ai appelé tout à l'heure le disque, le discours courant, le discours universel, le discours que tout le monde peut appréhender. Et dans cette opposition entre ceci n'est pas une image juste, mais juste une image, il y a opposition entre l'universel, qui dépasse le multiple, et celui de l'un, pas au sens de l'unien, au sens de l'unique. Juste ce qu'il faut, pas au sens d'une exigence, au sens d'un devoir moral, ce juste ce qu'il faut, c'est celui d'ouïr, de jouir, de je, que le je dise oui à quelque chose. Et paradoxalement, nous sommes effectivement dans cet au-delà du scopique, voire du spéculaire, c'est-à-dire du défini, du délimité, où nous pouvons dire ce qui est juste et ce qui est faux, pour accéder à autre chose. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus, en souhaitant que cet après-coup puisse développer d'autres après-coups, puisque c'est ça finalement dont j'ai parlé, c'est que si on ne sait pas la compréhension, même si elle nous est importante, c'est qu'un mot, quelque chose, un silence, puisse conduire ailleurs.